Bon bah merci, bonjour à tous, merci d'être venus. Cette petite conférence aujourd'hui pour parler, ce café littéraire, pour parler de l'anthologie des héritiers de monde, qui vient tout juste de sortir depuis le 11 avril.
C'est quand même récent.
Donc qui vient presque de sortir en fait. Nous avons autour de cette table donc notre psychologue en chef qui à la fin de la conférence va nous expliquer plein de trucs sur la mythologie, Freud et leurs amis. Il s'appelle Sylvie Genevoix.
Bonjour. Ah.
Juste à côté d'elle, nous avons Nicolas Eustache. Il faut mettre un H après le C, parce que c'est important.
Oui, parce que sinon c'est une faute.
Parce que sinon c'est une faute. Si vous voulez une maquilleuse sexy, donc si quelqu'un veut se dévouer rapidement. Donc voilà, qui a écrit une des nouvelles dans l'anthologie. À côté, c'est Claire Jacquet.
Il n'y a pas de H.
Il n'y a pas de H à faire, merci.
Voilà, c'est
Et c'est sa toute première nouvelle publiée.
Oui.
Voilà.
Je suis désolée. Hein. Voilà. Je l'ai fait, donc je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait exprès, vu que je l'ai envoyé.
Et l'anthologiste et éditrice, Nathalie O, qui est juste à côté, qui en plus va nous lire des morceaux de l'anthologie. Donc voilà. Un café littéraire en association, en partenariat avec l'association Musée Merveille. Et puis un petit bout de chef pour animer la conférence, et moi-même au catabar qui, vous l'aurez compris, aime bien les ambiances tamisées.
Ce qui n'est pas désagréable.
Hein ?
Ce qui n'est pas désagréable.
Ce qui finalement n'est pas désagréable. Ce qui fait. Et puis il fait bien chaud aussi, donc c'est parfait. Donc la première question, en fait, je voulais d'abord commencer à discuter un petit peu avec Nathalie, que tu nous dises un petit peu l'origine de l'idée de cette anthologie. Pourquoi avoir voulu faire une anthologie sur Homère et la mythologie?
En fait, à l'origine, c'est L'Esprit des Bardes, qui était une anthologie sur les mythes celtiques que j'avais dirigée chez Nesty Venel. Et dès le départ, on devait aborder toutes les mythologies, faire un tour du monde. Et le problème, c'est que Nesty Venel a décidé d'arrêter de faire des anthologies. Donc je suis restée avec ce projet, dont je n'avais pu faire que le premier volume, et j'ai créé les éditions Argemios pour pouvoir faire notamment les anthologies qui étaient prévues, donc auxquelles je songeais depuis 2003 à peu près, même 2002.
Qu'est-ce qui t'intéressait dans la mythologie pour en faire une nouvelle? Tu sentais qu'il y avait quelque chose à creuser en termes de texte?
Bah, c'est surtout que je considère que le matériau mythologique est quelque chose de vivant, que tout auteur, même contemporain, peut se puiser dedans, se le réapproprier, prendre à contre-pied, parfois nous raconter des histoires de personnages qui sont à peine présentés dans les mythes officiels, ou même inventer des suites, ou transposer les mythes, parce que ils sont toujours d'actualité.
Comment s'est fait le choix des nouvelles? Alors c'est, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous ne l'avez pas lu. Il faut le lire. Ce livre, vous allez voir, les nouvelles sont vraiment il y a vraiment des thématiques très très différentes. Alors comment s'est fait le choix?
En fait, on a reçu 60 textes, je crois, et on a gardé les meilleurs. Voilà. Il y a certains pans de la mythologie qu'on ne retrouve pas dans l'anto, des personnages mythologiques qui n'y sont pas. C'est pas grave. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, un autre éditeur aura envie de faire une autre anto, ou même peut-être nous, le jour où on aura fini le tour, pourquoi pas. Mais on a vraiment pris les textes qui nous paraissaient les mieux écrits, les plus pertinents, avec le plus d'inventivité, de réappropriation du mythe, même d'écriture de mythes nouveaux à partir des éléments existants, tous ceux qui nous parlaient le plus.
Comment est-ce qu'on peut définir ces textes? On peut dire que tous les auteurs sont vraiment appropriés les choses, et il y a vraiment beaucoup de surprises, quoi. On parlait un petit peu avec Nicolas.
Il y a aussi bien des textes qui se passent dans le futur, des textes qui se passent dans le présent, des textes très rock'n'roll. Il y a même une pièce de théâtre qui est humoristique en plus, vraiment un humour très intelligent. Qui nous a séduit d'emblée. Et puis des textes qui sont dans l'action, peut-être plus des textes pour garçons, et puis des textes très dans l'émotion, les sentiments, qui vont être peut-être plus féminins. Il y a un peu tout. On a essayé de composer Enfin, j'associe toujours les anthologies, enfin, la conception d'une anthologie à l'organisation d'un buffet. Donc, on va essayer de mettre des plats aussi variés que possible. Chaque lecteur ne va pas forcément aimer tous les plats, mais il faut qu'il trouve dans l'anthologie suffisamment de plats pour lui plaire et pour qu'il ne se sente pas floué.
Une vraie notion de cuisine.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, avec Jean Milman, on a fait un petit texte souhaiter la bienvenue aux lecteurs dans l'anthologie, puis on leur finit par leur souhaiter bon appétit. Voilà. De toute façon, on dit bien qu'on dévore les livres. Donc il y a aussi un côté.
Alors, ma première question, c'est est-ce que tout le monde entend bien Nathalie ? Ou est-ce qu'il faut qu'on parle plus fort ? D'accord. Tout va bien ? Je voudrais qu'on fasse peut-être une première lecture donc, de la nouvelle de Claire.
Un petit bout de Claire.
Un petit bout de Claire.
Et comment comme on le dévore,
un bon hamster.
C'est un reste à ta vie.
Pour l'équipe. Ah oui, c'est rare. Donc je vais vous lire l'acte 3 de la mort d'Héraclès. Ça se passe dans la maison d'Héraclès. Où vit Déjanire, son épouse, qui vient de recevoir la visite de Nessus, un centaure colporteur. Déjanire. Voici une chlamyde de mon époux. Elle a fort besoin des soins textiles dont vous me vantez les mérites. Nessus, pourriez-vous me fournir une vasque d'eau froide ainsi qu'un brasero au-dessus duquel nous chaufferons délicatement la tunique dans un bain régénérateur ? Déjanire sort et revient, portant une vasque, repart et apporte un trépied soutenant un bassin métallique empli de tison, quitte à nouveau la pièce pour revenir charger cette fois d'une jarre d'eau. Nessus déballe des sachets de toile colorée et observe la pièce d'un air détaché. Dans toute tragédie grecque, nous avons aussi un cœur et un coryphée. Le cœur. L'étau se resserre. Le roué centaure guette sa proie. Elle n'est pas dépourvue de ruse, celle qui feint de ne se douter de rien, mimant la naïve candeur. Le coryphée. Prends garde, femme crédule, car le loup te contemple de l'intérieur même de ta demeure. Son œil suit le moindre de tes gestes. Il épie la chair blanche sous le lin, la peau claire de l'épouse d'Héraclès. Déjanire. Cela vous convient-il ? Tout à fait. Maintenant, mêlons à l'eau pure la lessive Ponux. Regardez l'effervescence produite par ces enzymes gloutons. Déjanire, sincèrement déçu. Je ne vois rien. Donc là, je vais... Tenez. Penchez-vous davantage. De petites bulles se créent au fond de la vasque et remontent à la surface de l'eau dans un joyeux et décrassant mouvement de convection. Les enzymes se répandent dans toute la vasque. Il ne reste qu'à y plonger la tunique de votre époux. On vous passe les descriptions de l'action parce que c'est du théâtre. Elle résiste. L'intelligente femme se joue de ce vil séducteur. Il n'aura pas ce qu'il convoite. Astucieuse, elle le mène à sa perte jusqu'au retour du mari, qui sera le vengeur de ses pères offensés. Que vous pensez ? Que vous pensez ? Voilà qui est fait. Nessus joint le geste à la parole, dépose la chlamyde dans la vasque et s'approche de la jeune femme. Déjanire, les yeux plongés dans ceux du centaure, la tunique totalement oubliée. Vous l'immergez entièrement ? Et vous imprégnez bien l'étoffe d'eau ? Les enzymes, disais-je donc, vont se faufiler le long des mailles de la tunique, jusque dans sa trame même. Il s'agite, mimant l'action des enzymes autour de Déjanire qui figure le tissu. Elles vont en ronger les sexues, fondre les incrustations rebelles. Il effleure sa tunique et la purifier victorieusement, lui redonnant son éclat initial. Nessus embrasse à pleine bouche Déjanire, donc ça je vous le mime pas.
Je suis déçue.
Qui lui répond ardemment.
Moi aussi.
Les deux amants tombent au sol et disparaissent du champ de vision. Perverse sorcière, vile serpente, trahison ! Tromper son époux sous son propre toit, trahison ! Que le courroux divin soit sur ta tête, honteuse femelle ! La volupté triomphe de la raison, la passion éradique l'ennui ménager. Abat la monotonie de la femme passive, soumise et insipide. Bienvenue à l'ère nouvelle de la libération conjugale.
Alors, donc vous l'aurez compris, hein, tout l'enjeu, c'est enfin, l'adultère. Sous prétexte de lessive. possible.
Non, non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
C'est l'inverse. Oui. Même d'aide.
Mais le problème, c'est que Ponux a été retiré des rayons. On m'a dit qu'on l'avait cherché et pas trouvé. Donc...
C'est à cause des effets secondaires.
Que vous verrez en lisant la suite.
Voilà. Il y a encore deux actes, puis il y en avait deux avant.
Alors, Claire, un petit peu la même chose. Pourquoi avoir choisi ce thème et pourquoi avoir. Quelle était l'idée de base de la nouvelle ?
L'idée de base, c'est quand j'étais au lycée, donc piouf, il y a très longtemps, en cours de physique-chimie, on a dû me parler des enzymes gloutons et bah, j'ai toujours adoré la mythologie. Et puis, je sais pas, ça fait tilt, les enzymes gloutons, la tunique, le sang du centaure, et puis ça fait un joyeux nœud. Et puis l'idée, je l'ai mise de côté sur un petit carnet parce que sinon je les oublie. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, on va tenter. Ouais, et voilà.
Et pourquoi avoir choisi la forme de la pièce de théâtre ?
C'est venu tout seul.
Est-ce que tout le monde entend bien Claire aussi ?
Oui. C'est un peu venu tout seul aussi parce que je voulais. Bon, le coup des lessives, c'était vraiment de l'humour. Donc je voulais me moquer de tous mes personnages au maximum. Et c'était très dur de. Bah, tout le jeu de scène que Nathalie a essayé de rendre, ça rendait pas en disant. Et là, elle se pencha et elle lui fit les yeux doux, ça rend pas, alors que sous la forme pièce de théâtre, on peut mettre toutes ces petites lignes et les gens se le représentent. Enfin, on se représente plutôt bien le jeu des acteurs et hein, du surjouer et pour se moquer. Quoi. Voilà, ça s'y prêtait bien.
Ça demandait beaucoup de docs sur Héraclès ou.
Par rapport à d'autres nouvelles, absolument pas. Quoi. Enfin, il n'y a pas de référence historique ni géographique. Un tout petit peu par rapport au théâtre, pour pas trop dire de bêtises par rapport aux coryphées, au chœur. Un petit peu sur les vêtements, parce que pour savoir qui était habillé comment, quel type de vêtements d'Héraclès j'allais pouvoir mettre à bouillir. Et voilà. Parce que ses tongs, ça le faisait pas, son suite non plus, donc j'ai cherché l'équivalent du suite.
Héraclès sans tongs, ça le faisait quoi. Voilà. Ce qui est rigolo dans cette nouvelle, c'est qu'on parle d'adultère et finalement on renverse complètement. Complètement la situation. Quoi.
Ah bah oui, mais tout le monde est d'accord. Moi, je... Ah bah, l'ennui ménager, quoi. Il n'y a pas de raison, moi. Non, c'est vrai que bah, je voulais me moquer à la fois du séducteur, de la séduite, ingénue et pas tant que ça.
Il faut dire, si vous n'avez pas lu la nouvelle, qu'Héraclès, qui n'est pas encore présent là, au moment de la lecture, est quand même un vif séducteur qui part souvent guerroyer et...
pour obtenir
sa femme tout ce qu'il peut.
Oui, parce qu'il en a plusieurs, c'est et puis il y a celle qui croise, enfin bon. Donc c'était juste de vengeance que sa femme
oui, c'est vrai.
S'amuse aussi un petit peu.
C'est ta première nouvelle publiée.
Oui.
T'as beaucoup d'autres nouvelles en stock.
Ça dépend, c'est quoi, vraiment beaucoup. La. Beaucoup, ça veut dire 100, ça veut dire 5. Ça veut dire...
c'est pas pareil.
Je pense que j'en ai une dizaine, mais je suis absolument pas. Enfin, là, j'avais la nouvelle, ça s'y prêtait bien. Je ne sais pas trop ce que les autres finiront. Enfin, je ne sais pas si elles sortiront de mon ordinateur ou si elles y resteront jusqu'à la fin de leur jour, enfin, de mes jours. Voilà.
Et le fait de l'entendre, la raconter.
Ça fait bizarre. Ouais. J'ai plus l'impression que c'est mes mots à moi, en fait. Enfin, il y a une espèce de détachement qui se fait entre le moment où... bon, moi, j'écris sur ordinateur, donc on est en train de taper et puis d'assembler les mots pour que ça donne quelque chose. Et puis le moment où... bah, les mots ils sont dans du papier et puis dit par quelqu'un d'autre, enfin il y a un détachement, c'est plus vraiment, ça fait bizarre.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'elle serve de base d'une petite pièce de théâtre ? Tu l'as vraiment pensé comme ça ?
Au fur et à mesure que je l'écris, oui, je me représente parfaitement les personnages se tournant autour, bah, comme animé Nathalie, quoi. Le centaure qui fait des qui gigote, le tissu, enfin oui, ça, visuellement je le vois très bien.
Voilà, s'il y a des gens qui veulent monter une pièce de théâtre,
c'est de quoi faire.
Voire même transformer ça en sketch pour une lessive, enfin en publicité pour une lessive, ça marche aussi. Hein. Je suis pas contre les sous.
Produits dérivés.
Nathalie, qu'est-ce qui t'a fait craquer quand tu as lu la nouvelle ? C'est l'humour sous-jacent ? C'est la forme ?
C'est l'humour qui est vraiment très fin, bien fait, et la forme de pièce de théâtre qui est très originale. On n'en voit pas souvent. Puis en même temps, c'était vraiment du théâtre grec avec le chœur, le coryphée. Puis il n'y avait pratiquement pas de correction à faire.
Peut-être qu'on peut dire qu'est-ce qu'un coryphée pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement. Qu'est-ce qu'un coryphée Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un coryphée ?
Ah bah voilà.
Appuyez sur vos buzzers.
Chef du cœur.
Il y a les acteurs et en parallèle, il y a un chœur et le chef du chœur qui répond et qui commente ce qui se passe sur la scène. Donc là, ils font, enfin, c'est des commentaires critiques. Voilà, ils ont pris parti.
Alors, allez-y, allez-y, rentrez.
Bonjour.
L'important, bonjour.
Ouais, c'était pareil, c'est pareil.
C'est bête, vous avez loupé le passage sexuel de la conférence. Les photos
Du passage sexuel
Non, mais j'ai des sous, hein. Je vais payer, hein.
Allez-y, installez-vous.
Alors, je voulais qu'on s'intéresse à la nouvelle de Nicolas. Vous pouvez nous faire une petite lecture.
Chacun son tour.
Ah, mais...
voilà. Chacun son tour.
Vous avez
pareil,
pas
pareil, je prends au milieu.
Hein, pas avec la comparaison.
J'ai l'impression que c'est la question de peau, moi.
Oui.
Da, j'avoue.
J'avoue et tout. Donc je vais changer un mot pour introduire le personnage. Tout
ah quoi, tu vas changer
non, pas, normalement c'est lorsqu'elle rouvrit les yeux, mais comme vous ne savez pas qui est elle, puisque je lis en plein milieu, c'est Andra.
On ne change pas un mot de ma nouvelle.
Donc Andra, lorsqu'elle rouvrit les yeux, ils étaient arrivés à un motel aux abords d'une petite ville. Elle se laissa glisser à terre, suivie par Pierce. Elle commençait à reprendre ses esprits et remarqua un top case fixé par des sangles à l'arrière du véhicule blanc. Un coffre sur un chopper ? T'as pas tout pigé à l'esthétique du concept, toi ? Lança-t-elle, mi-moqueuse, mi-intriguée. Le contenant était noir et massif. Une aura de menace s'en dégageait. Probablement une perception due au trip pas encore terminé, se dit-elle, comme pour se rassurer. Il n'était pas d'origine, répondit Pierce en détachant le coffre. Mais... tu veux pas en savoir plus. L'objet à la main, il entra dans un des appartements. Andra le suivit, un peu d'appréhension se réveillant en même temps que sa raison. À l'intérieur, elle découvrit sans surprise une chambre à coucher exiguë et enfumée. À l'odeur, les clopes consommées dans la pièce n'étaient pas constituées uniquement de substances légales. Un homme maigre, presque nu, était allongé sur le lit, une guitare électrique à la main. « Salut, Pierce !» lança-t-il d'un ton enjoué. « T'as ramené ce que tu cherchais ?» Sans répondre, l'intéressé montra son top case tout en se dirigeant vers le fond de la pièce. Eh, « Je vois que tu ramènes de la compagnie, » continua l'inconnu. « Besoin de distraction ? Je te savais pas de tel goût. Tu fais la sortie des écoles maintenant ?» Piquée au vif, l'adolescente préféra dissimuler ses craintes et alla, bravache, s'asseoir sur un divan délavé, plusieurs fois recousu. « Et toi, t'es là parce qu'il a confondu une école avec une poubelle ?» répliqua-t-elle. Pierce posa le coffre sur un meuble et se retourna, déjà lassé par ce genre d'échange. Andra, lui, c'est Orphane, un parent à moi. Orphane, Andra est une gamine que j'ai ramassée sur la route. Un monstre la pourchasse, j'ai proposé d'aider. Un parent ? Demanda la jeune fille. C'est vague. Mon grand-père et son père, expliqua le musicien sans cesser de sourire. Mais mieux vaut ne pas entrer dans les détails. Le vieil homme était un sacré queutard. La moitié du pays doit nous être affiliés, je dirais. « C'est quoi comme nom, ça, Orphane ?» Un nom de scène. « Et il a un vrai nom, le rocker ?» Orphane est juste de passage, coupa Pierce en sortant de sa veste un énorme revolver qu'il posa près du coffre toujours fermé. « Ouais, je vais pas te déranger trop longtemps si t'as une copine pour t'amuser. Bravo, la solidarité familiale, tiens !» Orphane se leva pour enfiler un jean et un t-shirt. Il tapota ses poches, puis en sortit un joint. « On se fume un dernier qu'allumer, au moins ? On a le temps avant que ton monstre arrive, je parie. » Puis il se laissa tomber à côté d'Andra, qui s'écarta un peu, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais le musicien ne fit qu'allumer sa clope et la lui tendre. Après quelques secondes d'hésitation, l'adolescente l'accepta. « Alors, Orphane ? » demanda-t-elle entre deux bouffées. « Ça t'arrive souvent de faire des plans à trois dans un motel trop glauque avec tes cousins ?»« Écoute, ça m'arrive de temps en temps, mais en général, aucune fille n'est impliquée. » Andra réfléchit quelques secondes et lui rendit le joint. « Tu veux dire que t'es gay ?» C'est le nom du label, ouais. Enfin, tu vas te demander d'abord si c'est pas une sale ruse pour mieux te mettre le grappin dessus. Mais t'inquiète, même à l'époque, t'aurais pas été mon type de nana. Donc, t'as déjà connu des femmes. Tu parles d'un gay, tu bouffes à tous les râteliers, quoi. Enfin, je juge pas, hein, mais bon, faut assumer. Orphane lui lança un regard étrange, mélange d'amusement et de mélancolie, qui fit frissonner Andra sans qu'elle sache pourquoi. J'ai aimé une femme, finit-il par avouer. Une seule. Et jamais j'en aimerai une autre, car aucune ne peut s'y comparer. Il lui est arrivé quelque chose à ta nana ? C'est pas une histoire très joyeuse, ni très originale d'ailleurs. Mais tu la racontes si bien, glissa Pierce, et Andra ne sut dire s'il était sincère ou ironique. Avec un petit ricanement, Orphan se saisit de sa guitare et en tira quelques accords mineurs, mais ce fut le ton de sa voix qui insuffla la tristesse et les regrets dans l'esprit d'Andra.
On peut l'applaudir.
Les auteurs, c'est toi qui nous donne matière. Allez.
Alors, juste, c'est première question, qu'est-ce que ça fait de, se faire, de s'entendre?
Bon, d'accord, j'ai mal lu, c'est ça? Ah
non. Disons que c'est en comparaison avec le texte de Claire, c'est vrai que d'un seul coup, ça sonne vachement moins bien écrit, quand même.
Bah oui.
Bah oui.
Ah non, ça,
c'est différent. Mettre à sa place.
Hein. Non, c'est pas moins bien écrit, c'est un autre style.
C'est un autre style.
Alors, c'était mal lu.
Est-ce pourquoi que... le mal partout?
Parce que c'est Nikki.
Ah d'accord, ok.
Est-ce que tu peux peut-être nous résumer un petit peu l'histoire de base qui t'a permis d'écrire cette nouvelle? En quelques mots.
Alors, donc, cette nouvelle est une, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une revisitation du mythe de Persée dans une ambiance rock'n'roll, comme tout le monde l'a fait remarquer. En gros, avec comme ambiance de base, les années 70 aux États-Unis. Donc toute l'iconographie biker, rock'n'roll un peu destroy, drogue, qui a suivi donc la révolution de la fin des années 60. À la base, j'ai écrit ce texte par rapport à l'appel à texte de Nathalie. Et donc je cherchais un mythe grec qui m'intéresse et qui fasse pas trop, enfin qui risque pas d'être repris par tous ceux qui publient, qui enverraient des textes. Un truc pas trop facile comme Hercule.
On n'en a pas eu tant que ça sur Hercule.
C'était trop cliché, personne n'en a voulu.
Exactement, il y avait ça. Ma première idée, ça a été sur Orphée, en fait. Et le problème, c'est qu'Orphée est un personnage extrêmement populaire de la mythologie grecque. Mmh. Et je savais que si je proposais un truc sur Orphée, je ne serais pas juste en concurrence pour, en général par rapport aux autres, mais en concurrence par rapport aux 20 autres textes qui allaient parler d'Orphée.
Voilà, c'est à peu près ça. Orphée, ça a été... Orphée, et puis les Enfers, Hadès... C'est ce qu'on a reçu le plus.
Donc j'avais une idée qui me plaisait bien pour Orphée. D'ailleurs, c'est celle qui suit la scène que Nathalie vient de raconter, puisqu'Orphée s'invite dans le mythe de Persée, en fait. Mais je ne pouvais pas rester que là-dessus, parce que l'idée me semblait bien, mais était trop courte, et donc Orphée tout seul, ça ne marchait pas. Donc en cherchant, en Wikipédia, en fait, les mille grecs, juste à trouver quelque chose qui m'inspire, je suis tombé sur Persée. Et dans cette ambiance que je voulais plutôt d'ambiance fantastique, donc dans un milieu contemporain, j'ai trouvé que Persée pouvait bien s'intégrer par rapport à ce qu'il racontait. Donc c'était un héros solitaire qui traverse la Grèce au dos de son cheval blanc. Je me suis dit, ah, il y a un petit côté biker là-dedans. Et le truc amusant avec Persée, c'est qu'il est complètement stuffé de partout. Chaque dieu lui a filé un truc pour l'aider, un objet magique. Donc quand il arrive au milieu de son histoire, Persée, c'est peut-être un level 1, mais il a un nombre d'artefacts magiques hallucinants, donc il peut se taper en gros tous les mondes de la Grèce.
Oui, il est twinké.
Voilà, exactement. Et donc c'était assez amusant comme travail intellectuel d'essayer d'adapter tous ces objets magiques à une ambiance qui soit pas surnaturelle, mais juste bizarre et contemporaine. Donc le casque, c'était facile, le Pégase aussi, mais ensuite il y avait donc le glaive, les sandales d'Hermès, donc la tête de la méduse, et tout ça qu'il fallait, et le bouclier miroir, que j'ai essayé d'adapter tant bien que mal pour cette ambiance des années 70 américaines.
Ouais, donc l'idée vraiment est très rock'n'roll.
C'est remarqué.
Alors justement, il y a l'histoire de la méduse, pourquoi avoir choisi la méduse?
Ben là, c'était une obligation par rapport à Persée, puisque le mythe le plus connu de Persée, donc c'est son combat contre la Méduse, et ensuite le fait de sauver Andromède. Donc, puisque je voulais raconter plutôt la rencontre avec Andromède, c'est une histoire plus humaine, donc plus intéressante au niveau des relations que juste « Ah, un monstre! Je vais le taper jusqu'à qu'il meure !» Il était déjà passé par la Méduse. Donc, en fait, la Méduse, c'est un mythe très très intéressant en lui-même, mais c'était pas vraiment le focus de la nouvelle, donc j'en ai fait un personnage très très secondaire, bon, déjà mort, et en plus secondaire. Et donc c'est vrai que j'ai pas pu travailler son... Enfin, j'ai pas essayé de travailler la richesse de ce personnage, sachant que c'était un symbole avant d'être un personnage. Donc Donc je ne sais trop que dire de plus.
Nathalie, qu'est-ce qui t'a séduit là? Même chose, originalité, humour?
Alors déjà, ce qui est très bien dans la nouvelle de Goofy, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Puisque justement, en fait, on apprend ce qui s'est passé avant, on l'apprend après. Et c'est amené vraiment pas de façon... c'est vraiment amené de façon fluide et ça passe très bien. Ensuite, il y avait le ton. J'ai lu d'autres textes de Nicky où il n'a pas ce ton-là. Il adapte son écriture en fonction des thèmes. Et donc là, c'était vraiment... Je trouvais que c'était un texte très viril. Très... pas à vie, hein.
Viril et rock and roll.
Voilà, c'est ça. Ça me représente bien.
Et c'était un ton que je trouvais, que j'avais pas trouvé dans d'autres textes. Et donc, c'était un plat que j'avais envie d'avoir à mon menu. Voilà.
Toujours avec cette histoire de...
Exactement.
Avec cette idée de banquet. Je voulais vous demander à... Donc, Sylvie, notre psychologue du jour.
Voilà.
En termes de la psychologie, c'est beaucoup intéressé à la mythologie. Pour quelle raison?
Alors, il y a Épicure qui dit que, en fait, Vincent Lémot, tout philosophe, s'il n'apporte rien aux passions humaines pour avoir une fonction thérapeutique pour ces passions humaines, pour nous aider donc à dépasser nos difficultés. Donc la mythologie a apporté aux humains à quatre titres en termes de religion, une croyance, vous le savez, on parle d'opium du peuple, quelque chose qui va apaiser, qui va donner des solutions et surtout en nous apportant la fatalité qui va faire qu'on se sent moins responsable et donc moins accablé par ces difficultés. En termes de littérature, on a toute la poésie avec les aèdes qui ont propagé ça et là l'histoire des dieux et des humains, nous offrant au passage nombre d'illustrations de ce que pouvait être l'incarnation humaine et la difficulté de vivre quand on est humain avec les multiples choix qui s'offrent à nous. Par la suite, donc là on a vu en termes de théâtre un peu avec beaucoup d'humour, mais la suite pour la mythologie, ça a été la traduction sous forme de tragédie. Et donc là on voyait le personnage principal complètement noyé par ses problèmes, il ne voyait plus la solution. Et nous voyons, nous spectateurs, parce qu'on ne voit pas bien sûr le personnage, toute la logique qui découle de chacun de ses choix et combien il est un peu aliéné par sa fonction. Souvent, c'est en tant que fils, il doit venger son père, en tant que fille, elle doit suivre un nombre de recommandations qui leur préexistent et qui nous aliènent, bien sûr, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais on s'en rend un petit peu plus compte depuis l'avènement de la psychanalyse et de la philosophie, bien sûr. Et c'est aussi en termes de références savantes, et là la psychanalyse s'en est beaucoup servie, mais l'ethnologie aussi, l'anthropologie, beaucoup de matières sont appuyées sur la mythologie, puisqu'elle apporte une connaissance de l'homme en tant qu'il est universel finalement, malgré la variété de ses situations. Voilà. Et la mythologie, comme elle donne du sens au monde et qu'elle nous permet à chacun de nous de pouvoir s'identifier aux uns aux autres, de voir les parcours vécus, de pouvoir retrouver en l'autre quelque chose qui nous est propre, quelque chose qui nous fait souffrir la plupart du temps quand on s'intéresse aux histoires des autres, et vous pouvez le faire peut-être même dans vos relations amicales, familiales, on cherche du mythe, on cherche à savoir ce que les autres, confrontés à des situations proches de celle-ci, ont fait dans cette situation, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils s'en sont sortis. Parfois on va se dire, ah non, moi ça je ne ferai pas, non, ça moi, ça me convient pas du tout, parce qu'il faut que ça s'adapte à nous aussi. Et le mythe a cette vertu-là de nous apporter d'éventuelles solutions, des propositions alternatives, des positionnements dans la vie. Comme on voit, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de nouvelles dans ce livre et elles sont toutes variées, intéressantes, elles apportent des aspects différents. Et notamment, je pensais à L'Hospitalier, par exemple, donc, qui est une nouvelle qui parle d'un patriarche dans un village épargné par Zeus, protégé par Zeus, adoré, et qui suscite la jalousie de l'ensemble des dieux. Pourquoi est-ce que ces humains-là sont-ils privilégiés? C'est nous les dieux, ce n'est pas possible quand même. C'est nous. et comment ça va susciter toute la haine de ce monde-là. Et on voit que finalement, ce Tom qui n'avait rien fait de mal, qui n'avait rien à se reprocher, se retrouve quand même accablé par le destin, par les dieux qui sont contre lui. Donc, il y a aussi des fois où on voit, où la mythologie nous apporte cette possibilité de voir que certes, on a des responsabilités dans nos actes, et si vous avez lu quelques mythes que ce soit, vous voyez bien à certains moments que peut-être que vous, avec votre pensée moderne, vous auriez agi différemment dans la problématique qui se pose aux héros, mais parce que vous avez les connaissances que vous avez actuellement aussi, hein, on n'est pas à leur place, et qu'ils ont fait que ce qu'ils ont pu, et qu'on est à la fois coincé dans nos responsabilités et nos limites à ces responsabilités. Il y a des choses qui nous tombent dessus, on ne peut rien y faire. Hein. Non mais c'est vrai. Donc à nous de voir ce qu'on veut faire. Là, dans l'hospitalier, il aurait pu peut-être ne pas agir et accepter. Bon ben voilà, je suis comme ça et c'est ce qu'il décide dans un premier temps. Je suis comme ça, j'accepte ce qui va me tomber dessus parce que j'ai rien à me reprocher. Ça suffit pas toujours, mais au moins on est soi-même.
Donc tu veux dire que la mythologie, ça donne du sens au monde, mais ça justifie aussi la fatalité des choses qui n'ont pas de sens.
Ça, en fait, oui. C'est-à-dire que ça nous apprend deux choses. La première, c'est qu'effectivement, en fonction des réactions des uns et des autres, et effectivement, comme on a une variété de personnages, les réactions sont variées, les parcours sont divers, donc on peut avoir différentes manières de réagir, et en conséquence, les conséquences sont différentes, évidemment. Et parallèlement, parfois, qu'importe la réaction qu'on aura, on sera coincé, puisque l'événement nous dépasse, et c'est bien le propre des dieux, notamment, de nous transcender et de nous coincer parfois. Quoi. C'est ça, voilà. C'est pas donc.
Quand j'ai lu l'hospitalier, je trouvais qu'il y avait un air de l'histoire de Job. Oui. Je trouvais complètement, même si la fin est différente, c'était un petit peu la même démarche de la part de l'auteur.
Un petit peu. Et puis d'autres personnages vont complètement à l'encontre de ça. Alors excusez-moi, je m'étends sur le livre, mais je l'ai trouvé très bien. Donc je pensais à Nyctalée de Samothrace, qui est une autre nouvelle de ce livre. Où il est question d'une petite fille qui a un défaut qui fait qu'elle ne peut pas trop se promener la journée. Vous imaginez que pour une petite fille, si elle doit sortir la nuit, donc ça serait son seul espace de liberté, ça restreint les possibilités d'intégration sociale. Je parle peut-être curieusement, mais c'est ça. Donc cette petite fille a quand même trouvé à avoir une vie à elle, à exister, et elle va finir par faire un peu comme Hermès, donc messager, trimballant les messages d'un côté et d'un autre en pleine nuit. Petite fille, c'est pas très prudent. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'avec une destinée qui semblait mal partie finalement, donc elle part avec ce qu'on dirait aujourd'hui un handicap. Mais en réalité, cette petite fille, elle est un peu exclue de la normalisation habituelle. Une petite fille, ça grandit, ça s'éduque et puis ça se marie. Voilà. Et elle, du coup, ayant ses caractéristiques particulières, va avoir une vie complètement différente et donc va avoir la liberté de se dire « je veux vivre autre chose ». Et ça c'est très moderne dans l'ancien. Et on voit même dans différents ouvrages, enfin dans différents nouvelles du livre, justement ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, donc là on a deux illustrations parfaites, je trouve, on a du classique et du moderne. Et on a mis de la modernité dans du classique, on a mis du classique dans de la modernité, et ça montre bien, oui, que l'universalité des mythes et ce qu'ils peuvent nous apporter. Ils sont loin d'être morts, non ? Tout à fait. Voilà.
Vous êtes d'accord, vous, les deux auteurs ? Quand vous avez lu un petit peu de mythologie, ça vous a semblé moderne ?
À première vue, non. Si on regarde strictement, non, ça ne l'est pas. Après, si on décortique et puis qu'on essaye de comprendre le sens global des textes, on les retrouve. Enfin, bah, c'est des mythes, quoi. C'est un peu ce qui fait leur caractère. On les retrouve tout le temps. Et partout, pardon.
On disait, c'est pas tant que c'est moderne que c'est universel. Donc ça peut se superposer à la modernité sans trop de soucis. Cela dit, aussi, ce qui est intéressant avec les mythes anciens, comme surtout les mythes grecs, c'est la morale qui transporte, qui, elle, a potentiellement été métamorphosée depuis 3000 ans que ces mythes existent. Avec donc la morale. Grec qui est très sur l'ordre établi, sur l'hybris, il faut que chacun reste à sa place, qui est complètement alien par rapport à notre pensée moderne depuis une centaine d'années, qui est plutôt sur le fait qu'on contrôle notre destin, qu'on peut changer le monde, pas facilement, quoi, mais c'est possible de changer nos classes sociales, avec la lutte des classes qui a été inventée au début du siècle et tout ça, du siècle dernier. Alors que la mythologie grecque, au contraire, c'est très très entre guillemets réactionnaire, mais d'une façon pas réactionnaire moderne, réactionnaire de l'époque. Et quand on nous en prend les mythes quand on est jeune, tout ça c'est très aplani. On ne se rend pas compte de tout ça, on ne nous le raconte pas, les trucs un peu trash, mais aussi les trucs bizarres de la psychologie. Donc on trouve que ça fait juste universel et simple, enfin facile, on les comprend. Ensuite, quand on lit les mythes un peu plus originels, on se rend compte que c'est quand même une morale très très différente, que les héros sont souvent des salauds profonds, qu'on peut, dans les mythes actuels, ce serait que des antagonistes, quoi, rien d'autre. Et que c'était les héros de l'époque, dans leurs qualités, dans leurs défauts, qui étaient toujours liés, que c'était des héros, c'était que tout ce qu'ils faisaient était plus horrible ou plus héroïque. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est à la fois universel et à la fois alien à notre pensée. Donc c'est intéressant, ça nous permet de mieux comprendre notre propre pensée, de voir comment les gens pensaient il y a des milliers d'années ou dans d'autres pays. Et donc, grâce aux différentes mythologies, qui sont souvent un peu ce qui est resté d'une époque ou d'une civilisation, ça permet de, plus que de savoir des choses sur leur civilisation, ça permet d'apprendre des choses sur nous-mêmes et sur nos façons de penser.
Vous réécririez des nouvelles avec une base mythologique comme ça?
Oui. Enfin,
il y a encore de quoi faire.
Il y a encore de quoi faire.
Oui, il faut trouver la façon d'attraper, de s'approprier quelque chose qui n'est pas à nous de base. Quoi. Je ne suis pas capable de m'approprier percé. Après, je n'ai jamais essayé non plus.
Non, tu pourrais. Oui, l'autre intérêt aussi de prendre une mythologie, d'écrire sur un mythe déjà existant. C'est l'intertextualité. On va pouvoir écrire sur des idées, sur des personnages que potentiellement on va considérer que tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est un défaut si jamais quelqu'un qui ne connaît pas le mythe lit le truc, et ben, il ne comprendra pas la moitié des références.
C'est pour ça qu'on fait des glossaires.
D'où le glossaire, mais c'est pas pareil. Et donc, l'intérêt d'écrire sur un mythe, c'est pour ça que c'est très à la mode. On continue de le faire, peut-être que ça a toujours existé, depuis 50 ans que la littérature mondiale peut se diffuser vachement plus. Et ça se fait énormément en Amérique, ils aiment beaucoup la mythologie germanique plutôt, mais la mythologie grecque elle est plutôt connue. En France, on est plutôt mythologie grecque principalement, les autres on ne connaît pas trop.
C'est notre culture, de tout
le monde. Ouais, je dis pas le contraire. Et donc ce qui fait qu'on peut prendre des personnages, et puis tiens, je vais faire une blague, je vais changer tel aspect de sa vie, sans du tout parler de pourquoi c'est intéressant, parce que les gens vont le comprendre d'eux-mêmes. Je vais m'adresser directement au corpus de connaissances des gens. Et la mythologie, c'est une grande facilité à ce niveau-là. Et donc, il y a d'autres, mais c'est la mythologie classique, mais il y a d'autres choses. Il y a la mythologie plus moderne, comme les autres genres, les codes. C'est comme quand on écrit dans un genre et qu'on va changer tel code pour que le héros, plutôt qu'être comme ça, plutôt qu'être un orphelin en fantasy, d'être un orphelin fils caché de roi ou de forgeron. On va faire un truc différent. Et tout l'intérêt du texte sera dans ce truc différent et de ce que ça implique comme changement sur tout le genre. Et avec les mythologies, c'est assez facile de faire ça. C'est pour ça que j'aime bien écrire avec les mythologies pour subvertir certains codes que tout le monde connaît déjà.
On va passer un petit peu à la partie questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions?
Non, mais c'est intéressant.
C'est bon. N'hésitez pas. Peut-être des avis sur les deux textes.
Non, mais on a été trop clair, ils ont tout compris.
C'est délicat. Merci.
Oui,
pardon,
si je peux me permettre un petit avis à propos de ce que vient de dire l'auteur sur la mythologie grecque réactionnaire. Je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut quand même savoir, parce que moi-même, quand j'étais au lycée, je ne savais pas, la mythologie grecque que nous avons appris au lycée, c'est une création relativement tardive. Elle a été définitivement fixée à la fin de la période grecque et même une partie au début de la période romaine. Donc c'est quelque chose de tardif. Si on avait entendu ces mythes quelques siècles auparavant, ils étaient sûrement très différents. C'est exactement comme la Bible. La Bible que nous connaissons a été écrite très très tard. Donc les interprétations peuvent être difficiles. C'était ce que je voulais dire.
Oui, mais enfin.
Et puis les valeurs n'étaient pas les mêmes de toute manière, parce que c'est les valeurs d'honneur, de force. Aujourd'hui, quand on nous dit un héros arrive et par sa force, il gagne tout, excusez-moi, mais on est juste choqué, je dirais les autres et les pauvres, ils sont fragiles, c'est injuste, il y a inégalité, on parle d'égalité, on est dans des sociétés différentes.
On est tous un côté facho, au fond, on aime bien les héros qui peuvent
la gueule. On les aime bien, mais c'est justement parce qu'ils sont dans la littérature, parce qu'ils sont dans l'imaginaire, et l'imaginaire est là pour nous nourrir justement de tout ce qu'on ne peut pas
faire. Regarde les politiques, enfin les personnages historiques. historiques, on peut les aimer pour ça aussi, parce qu'ils ont un aspect. Ah, Napoléon, il a pété la gueule de l'Europe, il a fait monter, il a fait une France forte. Ouais, mais enfin bon, c'était un fasciste.
Bon, enfin, c'était si vous permettez, je vais répondre à Manuel. Justement, dans l'Anto, on a des auteurs. Yann Marchand, qui a écrit L'Hospitalier, qui est un philosophe et qui est vraiment féru de mythologie grecque et qui s'est référé à la mythologie grecque telle qu'elle était au temps d'Homère. Et qui a une vision de Zeus qui est très différente de celle que les gens qui n'ont comme connaissance de la mythologie grecque que ce qu'on a appris à l'école, justement, peuvent avoir. Et je sais que Jean Milman, lui, quand il a lu le texte de Yann Marchand, sur le coup, il a dit, mais c'est n'importe quoi, ce Zeus qui se veut défenseur, qui félicite cet homme parce que c'est un bon mari, fidèle, machin bidule, alors que lui, il couche à droite, à gauche, enfin, il comprend, parce qu'en fait, il fallait replacer vraiment le texte dans une vision de la mythologie, parce que les mythes grecs, il en existe plusieurs versions pour une même histoire, et selon si on est dans la tradition orphique ou si on est dans la tradition homérique ou même avec d'autres auteurs, on n'a pas la même vision des dieux. Et donc c'est ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des auteurs qui se référaient à différentes époques au sein de la même anthologie. Voilà.
Est-ce que quelqu'un a une autre question?
Petite question.
Petite question pour finir, oui, non?
Tout le monde s'en fout, en fait.
C'est ballot. Mais dites quand même, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
On peut répondre pour les autres.
J'ai lu la nouvelle de
Jess Kahn.
Le syndrome de Midas.
Voilà, c'est ça.
C'est original.
Et je l'ai lu juste avant de venir ici, donc j'ai pas pu me référer au mythe original. Donc j'ai essayé de retrouver, et c'est vrai que c'est traduit dans le monde de la finance, le mythe de Midas.
C'est très original.
Et ça m'a plu parce que ça. Je m'attendais pas du tout à ce dépaysement. La réécriture des mythes, pour moi, était quand même assez figée. Et en tout cas, l'aperçu que j'ai eu de ce que j'ai lu m'a fait complètement changer de monde et ma vision par rapport aux mythes, justement, en les important dans une autre époque. Et donc, j'ai hâte de pouvoir lire l'intégralité des mythes.
C'est tout l'intérêt de la revisitation, justement, c'est de pouvoir le revisiter comme on veut.
Ouais.
Donc, vous avez découvert que c'est ça, la revisitation.
Donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est de faire des parallèles entre différentes sociétés et de montrer en quoi elles se ressemblent finalement. Là, de voir qu'effectivement, comment s'appelaient les personnes? Les Crisoniens, par rapport à Midas, et de voir qu'encore cette cupidité finalement existe, et puis de lui donner un autre sens que celle qu'on croit qui est puissamment répandue en fait. C'était très, ouais, très, très bien.
Une dernière question? On a un petit peu pris par le temps.
Oui, quand même.
Oui,
Juste voulais préciser que dans l'Anto, il y a effectivement un texte comme celui de Jess Kahn où il y a une réappropriation et un dépaysement. Et il y a d'autres textes qui peuvent sembler de facture plus classique, où ça se passe dans l'Antiquité, mais où en réalité, les auteurs, comme par exemple Charlotte Bousquet, elle s'est amusée à prendre l'histoire de Philémon et Baucis et de la relier de façon qui semble parfaitement naturelle à l'histoire de Cybèle et Attis, alors qu'en fait, ce sont deux histoires totalement séparées. Et en plus, elle nous donne également à l'intérieur de ce texte, elle nous évoque l'histoire de Pyramide Thisbé, et en fait, c'est le mythe tel qu'elle nous le raconte, il n'existe pas. Voilà.
Globalement, vous avez été surpris en recevant toutes les nouvelles?
Il y en a certaines, oui, qui étaient surprenantes.
Ouais.
Par exemple, la nouvelle de Jeanne Hasselbart, on ne s'attend pas à un texte aussi. Médée.
Très courte.
Ouais, c'est à la fois superbement poétique et que Nicolas lit de l'écriture et en même temps une dureté et un voyage au cœur de la folie. Pareil, il y a le texte C'est mêlé de Philippe Guillot, où j'ai longtemps hésité parce que c'est un texte en fait qui me met extrêmement mal à l'aise. Ça se passe dans le futur, il n'y a plus de dieux. Les dieux, c'est des humains qui sont partis dans l'espace et qui exploitent qui exploite des concessions minières qui sont dans l'espace et qui vivent sous scaphandre pendant des années et des années. Et lorsqu'ils reviennent sur Terre pour avoir des sortes de vacances, en fait, ils sont tellement divinisés par toute la masse rampante des gens très 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 pauvres qui sont restés sur Terre, que les femmes sont prêtes à souffrir à eux, enfin, pour partager un peu de... C'est un peu le phénomène des groupies vis-à-vis des stars, etc. Et en fait, si le texte s'appelle Sémélé, c'est qu'il fait directement référence à cette humaine qui était l'amante de Zeus et qui un jour lui a demandé de se révéler à elle dans l'intégralité de sa gloire et qui en a été foudroyée. Et la jeune femme qu'on va suivre dans cette histoire va voir en fait son dieu tel qu'il est vraiment et va en être foudroyée. Et c'est très dur, c'est très vraisemblable en même temps parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça à notre époque. C'est vraiment... Et c'est pas un texte que j'ai retenu parce que je le trouvais beau, même s'il est très bien écrit. C'est vraiment un texte qui m'a procuré une émotion de...
Une gêne.
Oui, mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas le mettre.
Mais une gêne à transmettre.
Une gêne à transmettre, c'est un message fort. Et...
C'est important.
C'est vrai qu'au départ, quand on lance des athées sur la mythologie, on ne s'attend pas à des textes comme ça.
Il est dur.
Enfin... Il est très dur, mais...
Oui, il est dur.
Mais il est d'autant plus dur par le regard de l'observateur qui nous raconte cette histoire. Il est derrière ses écrans de contrôle et on comprend que c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qu'il voit jour après jour et qu'il ne peut pas intervenir, il n'intervient pas, il n'en éprouve même pas le désir. Il y a cette espèce de...
D'ordre établi.
Oui, et puis de... Il a de l'amour pour cette femme et en même temps une sorte de distanciation et...
Voilà. Oui. C'est comme les sept derniers vaillants aussi. Il y a aussi une coupure de l'espoir qui est assez radicale. Quand même. On se dit,
c'est très réussi. C'est vrai.
Et heureusement, à la fin, on a Firestarter qui vient nous rapporter de l'espoir.
C'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu on n'aimerait pas avoir ça en fait.
L'espoir pour les païens.
Oui, pour les païens.
Une petite question pour terminer. Vous avez compris les textes durs et les textes drôles dans cette.
Il y a des textes très, très poétiques, romantiques, je dirais.
Pour filles, quoi.
Ouais, pas pour filles.
L'image d'un buffet, elle est très bonne. Enfin, moi je trouve. Dans les autologies, on découvre plein d'auteurs différents. Les mythes grecs, chacun, même s'il y a eu beaucoup de réponses sur Orphée et les Enfers, enfin. Chacun a choisi quelque chose qui lui plaît et en tant que lectrice, j'aime beaucoup les anthologies parce qu'on trouve plein de choses différentes. Donc le buffet, l'image est très bonne.
Mais ma grosse surprise, ça a quand même été de jamais voir de texte sur Aphrodite. Elle est juste au glossaire parce qu'elle joue un petit rôle dans un texte. Mais l'amour n'a pas tellement inspiré. La déesse de l'amour n'a pas tellement
comment
inspiré.
Comment elle intervient dans l'hospitalier
Et en plus... Voilà.
Il nous reste à remercier les participants. Vous pouvez partager le buffet en allant discuter avec eux et puis vous faire des dédicaces. Acheter le livre, éventuellement, qui sera juste derrière. Non, juste au-dessus, puisqu'on va monter. Juste pour vous faire un petit point sur l'association Musée Merveille, que dirige Caroline, qui nous permet d'être là aujourd'hui. Elle n'a rien à vendre particulièrement. Par contre, il y a un petit chapeau qui permet éventuellement une petite boîte. Je voulais mettre une petite pièce, c'est parfait.
Même une pièce jaune.
Et puis je vous propose maintenant de se rendre là-haut pour pouvoir discuter autour d'un verre, ce qui sera bien plus sympathique. Merci beaucoup à tous.
Merci.